Radio Stab.
Morning edition from NPR News.
Sí, Santito de House.
Radio Rosana Piperino.
Lo que se reproduce aquí en la radio.
France Inter, le 18-20.
L'escale reportage d'un jour dans le monde, le 10e anniversaire de l'indépendance du Kosovo, pays le plus pauvre des Balkans où la population est plus divisée que jamais. Sous les radars de l'actualité internationale avec Florence Paracuellos, Trump saison 2, comme chaque lundi à Washington, Gregory Phillips, Donald Trump directement interpellé par des lycéens après la tuerie en Floride. 18h55, l'édito diplo de Bertrand Galichet, ce soir, le Kremlin. Face à la situation au Daghestan où une église orthodoxe a été attaquée. Mais tout de suite, la reconstruction d'un pays immense, l'Irak.
Pierre Veille, un jour dans le monde.
76 pays, 51 organisations d'aide internationale, 107 associations et fondations, 1850 hommes d'affaires. C'étaient les participants à la conférence internationale organisée à Koweït pour la reconstruction de l'Irak la semaine dernière, du 12 au 14 février. L'Irak dévasté par la guerre contre Daesh ces trois dernières années, mais aussi par l'instabilité, les attentats depuis l'invasion américaine en 2003. L'Irak a obtenu 30 milliards de dollars pour sa reconstruction. Cela fait 20 milliards d'euros, il en espérait beaucoup plus, 88 milliards, mais bon, il y a quand même de quoi répondre aux besoins à court terme. Hocham Daoud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes anthropologue, chercheur au CNRS, spécialiste de l'Irak, ancien directeur de l'Institut français du Proche-Orient en Irak. Vous venez d'effectuer un long séjour dans ce pays. Hocham Daoud, une supposition. Vous avez un ami qui est un homme d'affaires, vous lui conseilleriez d'investir dans la reconstruction de l'Irak ?
Il faut le convaincre. C'est un pays qui n'est pas facile. Il y a la question politique. Le pays se cherche. 13-14 ans après l'invasion, l'occupation et puis de gouvernements successifs. Donc il y a un désaccord au niveau national. C'est vrai, ça pose problème. D'où l'appel de la communauté internationale aux Irakiens. Bah, écoutez, il vous faut un gouvernement inclusif. Ce qui fait défaut jusqu'à maintenant. Deuxième chose.
Qu'est-ce que ça veut dire un gouvernement inclusif en Irak ?
Ça veut dire, l'Irak, comme beaucoup d'autres sociétés dans le monde, ça fait des pluralités ethniques, confessionnelles, religieuses, régionales, tribales. Et avec l'affaiblissement de l'État, la dispersion de pouvoir, toutes ces identités infra-étatiques, jadis étaient gérées par un régulateur qui s'appelle l'État, ils ont pris forme politique d'autogérer au niveau local, national, régional, des fois même avec des procédés propres à eux, ce qui fait baisse de la sécurité, baisse de reconnaissance d'une identité globale qui est l'État et la nation. Et à ce moment-là, il faut faire rentrer tous ces gens-là dans la dynamique générale.
Et c'est pour pas ces le cas actuellement.
C'est pas le cas actuellement. Mm-hmm. Ce qui explique,
donc,
par exemple, en grande partie...
Il n'y a pas actuellement en Irak une administration centrale, un gouvernement qui gère effectivement tout le pays ?
Au niveau central, nous avons des gouvernements qui sont reconnus formellement à l'échelle régionale et internationale, mais sur le terrain, ça fait désirer. Dès qu'on quitte Bagdad, bien évidemment, on se rapproche de la région sunnite, libérée fraîchement de Daesh. Ça a été d'autres identités, d'autres régions, d'autres structures. Si on va dans la région kurde, nous avons quasiment depuis 25 ans un quasi-État indépendant. Donc, refaire cet Irak, ça demande beaucoup d'efforts. Non seulement au niveau de reconstruction. Le problème de la conférence de Koweït de donateurs, c'était cela. La reconstruction de l'Irak, ce n'est pas simplement des données techniques. C'est comment reconstruire. Comment on définit une reconstruction ? Pour l'Irak, il s'agit de reconstruire une nation, un État, une société. Et à la fois faire rentrer tout le monde avec leur pluralité dans cette démarche, cette dynamique.
Organiser la coexistence entre chiites et sunnites en Irak.
Disons, c'est le grand problème.
Oui.
Mais aussi avec le Kurde. Mais aussi avec les pays de la région. Aussi trouver quand même une garantie internationale. Aussi que les Irakiens acceptent de, distribuer justement la revenu et la richesse de la nation, en l'occurrence aujourd'hui à 95% presque autour de pétrole, etc., etc.
Donc ce n'est pas un portrait très rassurant de ce pays que vous nous faites, parce que les investisseurs, ils aiment bien investir, gagner de l'argent, mais ils espèrent récupérer leur mise, faire des bénéfices, un pays instable, où toutes les communautés sont en compétition, ce n'est pas rassurant.
pas tout à fait rassurant, c'est vrai. Ouais. Bon, qu'est-ce qui s'est passé au Koweït? Vous savez, il y avait tant de personnes que vous venez de les citer. Il y avait autant d'argent. Mais je rappelle, il s'agit de promesses. Ce n'est pas d'argent frais sur la table.
Ouais.
Deuxièmement, c'est une forme de promesse qui est autour des garanties aux investisseurs et investissements directs. Mais au préalable, tous ces investisseurs, ils ont demandé aux Irakiens, au gouvernement à Bagdad, de plus de sécurité, plus de lutte contre la corruption, plus de transparence.
Justement, la corruption, vous revenez d'un long séjour en Irak. La corruption, elle se manifeste de quelle façon en Irak? On la voit à tous les niveaux, du fonctionnaire au parlementaire, au ministre?
Oui, on le voit à tous les niveaux. D'ailleurs, ce qui est problématique, on le voit davantage au niveau politique, on le voit davantage au niveau, je dirais, au haut degré de l'État, ce qui fait que la base ne suit plus. Donc l'argent, quand ça arrive, on paye le salaire de fonctionnaires, il y a trop de fonctionnaires, et il ne reste pas beaucoup d'argent pour la reconstruction. Et à ce moment-là, on essaye de voir des investisseurs qui vont venir dans des secteurs tellement limités. C'est des secteurs, il s'agit davantage de désarmement, et de communication, des secteurs hydrocarbures, de pétrole, et import-export. C'est autour de cela. Au-delà, c'est vrai, l'Irak, c'est un pays presque encore laissé au moment de la guerre de 2003. Peu de routes, ils étaient réparées, très peu d'écoles reconstruites, et très peu d'hôpitaux, ils étaient mis en marche. Et un Irakien, pour se soigner aujourd'hui, il est obligé d'y aller soit en Iran pour se soigner, soit en Inde, soit au Liban. Rares de pays européens et d'autres qui donnent visa aux Irakiens. Donc vous voyez, la situation n'est pas très simple, très difficile. Les salaires qu'ils gagnent sont assez pour vivre médiocrement, d'où les Irakiens, ils tournent vers des procédés un peu plus faciles, qui est accepté et partagé, devenu système, c'est la corruption.
Vous venez d'évoquer, Hocham Daoud, tous les secteurs dans lesquels il faudrait investir pour reconstruire ce pays. Illustration de la tâche immense de la reconstruction en Irak. La situation à Tikrit, une ville de 160 000 habitants, libérée des mains de Daesh il y a 3 ans. On va écouter le reportage sur place d'Oriane Verdier.
Autrefois, l'hôpital de Tikrit accueillait des patients venus de toute la province de Salah ad-Din. Mais voilà 3 ans qu'il n'est traversé que par des courants d'air. Utilisé comme base par l'organisation État islamique, il a été détruit pendant les combats. Riyad Jabbar est membre du conseil municipal de la ville. Parmi les décombres, il ramasse par terre un dossier empoussiéré.
C'est le dossier d'un patient. Il y a toutes ces informations, son historique. On est retourné à l'époque du Moyen-Âge maintenant. Des femmes enceintes meurent par manque de maternité de qualité. La pollution des eaux est aussi un problème. Nous avons besoin d'argent pour régler tout ça. Mais le ministère de la Santé ne nous envoie que des médicaments de base comme des antidouleurs.
Tikrit manque aussi d'écoles et d'accompagnement psychologique d'enfants qui ont vécu l'horreur. Certaines organisations humanitaires tentent pour l'heure de pallier ce vide. Safa Ramadan travaille à Tikrit pour l'ONG Terre des Hommes.
Certains enfants sont encore terrorisés, ils ne communiquent plus. Cette génération aura des séquelles à vie. Si au moins ils avaient une maison dans laquelle être stable, ce serait autre chose que de vivre sous une tente. Là, ils ne sont pas tranquilles, ils ont peur pour leur vie ou d'être expulsés.
La majorité des enfants dont s'occupe Safa n'ont toujours pas pu rentrer chez eux. Ils vivent dans les environs de Tikrit, mais beaucoup viennent de la ville voisine de Beiji. Cette ancienne cité pétrolière est aujourd'hui un labyrinthe de ruines. Au milieu des gravats, Mounir a décidé de reconstruire sa maison de famille.
Vous voyez ma maison, ce ne sont que des décombres. J'ai dépensé tout mon argent. Maintenant, je n'ai plus rien. Il n'y a même pas d'eau ou d'électricité. Aucun représentant gouvernemental n'est venu nous voir. Personne.
Seulement 75 familles sont revenues habiter dans cette ville fantôme, libérée pourtant il y a plus de 2 ans des mains de l'organisation État islamique. Beaucoup sont des chefs de tribus locaux, comme le cher Hamid. Il refuse de rester les bras croisés face à l'inaction du gouvernement irakien.
Notre gouvernement est corrompu. Nous ne faisons confiance ni aux politiques locales, ni aux nationales. Le gouvernement irakien a créé un business autour des déplacés qui vivent dans des tentes en Irak. Par exemple, si 1 milliard de dinars arrive pour les déplacés, ils vont tout voler en faisant de faux justificatifs et ils n'en laisseront que 10 ou 15%. Ce sont des experts.
Le premier ministre irakien Haïdar Al-Abadi a affirmé vouloir lutter contre cette corruption, mais cela risque de prendre plusieurs années. Pendant ce temps, le gouvernement devra également tenter de stabiliser un pays aujourd'hui imprégné de violence et de division.
Oriane Verdier à Tikrit, Hocham Daoud, violence et division, on l'a entendu dans ce reportage. Il y a d'abord la cohabitation en Irak entre les chiites, 60% de la population, et puis les sunnites, 20%. Dans ce reportage, on a parlé de milices, et puis il y a aussi le rôle des tribus. C'est compliqué à gérer.
Oui, c'est compliqué. C'est la raison pour laquelle l'Irak a lui tout seul après 2003. T'es incapable de gérer cette dissension interne et profonde qui dure depuis des générations. Le rappeler que l'Irak est en guerre et de conflit depuis 1980. La guerre Irak-Iran, après l'occupation du Koweït, après l'embargo, après l'invasion, les guerres civiles, Qaïda, Daesh, jusqu'à aujourd'hui. Donc, gérer tout cela. L'Irak, sans un appui assez soutenu de la communauté internationale, avec une coopération des pays de la région, sans que le terrain irakien se transforme en règlement de compte entre l'Iran, l'Arabie Saoudite, sunnites, chiites, etc. Difficile à ce pays-là, lui tout seul, de s'en sortir.
Daesh avait pris le contrôle d'un tiers de l'Irak. Daesh a été vaincu. Est-ce que pour autant, en Irak, aujourd'hui, la menace terroriste a disparu?
Non. Daesh, tel comme était une structure quasi-étatique, a été mis, disons, a été échoué. À partir de là, la forme de djihadisme, de terrorisme, bien sûr, ça métamorphose, ça déplace, ça prend d'autres formes, peut-être quelques temps pour s'adapter. Déjà, on voit, il y a des éliminations, il y a des rançons, prises en otage contre rançons, il y a de kidnappings, il y a d'assassinats, l'insécurité dans certaines régions d'Irak fait désirer. Dans d'autres, c'est encore mieux. À Bagdad, c'est vrai, la situation est meilleure. Dans la région de Kurdistan, ça a toujours été mieux, mais dans la situation à Bassora, par exemple, là où l'ordre des milices règne, il y a une détérioration qu'on le voit dans le sud.
Et là encore, ça peut décourager d'éventuels investisseurs.
D'autant plus dans le sud, parce que c'est 80% des réserves de l'Irak en pétrole se trouvent dans le sud du pays. Or, à la conférence de Koweït, ils sont investis davantage, ils sont promis davantage à s'investir dans le secteur du pétrole, le transformant comme une locomotive pour la reconstruction. Maintenant, c'est à Abadi, au gouvernement irakien, de s'assurer l'investisseur déjà dans cette partie pour tirer le reste de l'économie. Ça prendra du temps. Beaucoup de patience de la part de la communauté internationale. L'Irak, quand même, c'est un pays important parce qu'il a tant de réserves de pétrole. C'est une région très dangereuse et très importante. Et puis, on ne peut pas laisser ce pays-là à la dérive. On connaît les conséquences. Déjà, il y a quelques années qu'on les laissait à la dérive. On a vu Daesh, on a vu le djihadisme, on a vu un quasi-État. Et aujourd'hui, maintenant, le monde entier essaie de se réparer, cicatriser ce qui s'est passé en Irak, qui s'est propagé ailleurs dans le monde.
Gros dossier dans cette reconstruction de l'Irak, c'est le financement du retour de près de 2,5 millions de déplacés.
Oui, de certaines régions. Vous savez, depuis presque 20 ans, il y a quelques 4 millions d'Irakiens qui se trouvent à l'étranger.
Oui.
Le pire pour le pays, c'est que la meilleure compétence de l'Irak, il se trouve à l'étranger. C'est un pays doublement maintenant sanctionné et châtié parce que ceux qui sont en position de gérer la reconstruction, ils sont à l'extérieur. Et ceux qui sont à l'intérieur, bien sûr, déplacés. Des villes entières. La 12e ville du pays, Mosul, est totalement détruite. Tikrit à 60% détruite. Al-Anbar, c'est une ville, Ramadi, c'était presque 80% détruite. Or, il n'y a pas d'argent pour la reconstruction. Et cette région-là, à quasi-majorité, ils sont sunnites. S'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas une répartition de pouvoir, si on ne pense pas à eux, le problème chez les sunnites, ça devient imminemment un problème politique. Avec la ramification de la crise régionale entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, entre la confrontation qu'on connaît en Syrie et ailleurs, l'Irak, elle redevient de nouveau, très rapidement, un champ de bataille. Et à ce moment-là, on va voir d'autres types de djihadisme. Vous savez, entre 2005 et 2009, il y avait Al-Qaïda. Quand on n'a pas réglé le problème, il y a eu Daesh. Si on ne règle pas le problème, on peut voir pire encore.
Hocham Daoud, vous imaginez que cette reconstruction de l'Irak puisse fonctionner malgré le tableau noir que vous nous avez, plutôt noir, hein, et pessimiste que vous venez de faire de la situation dans ce pays. Vous y croyez ? Dans quelques années, ce pays peut retrouver une vie quasi normale avec des chantiers un peu partout ?
Je crois à condition que des mesures draconiennes soient prises en termes de justice, sanctions de corruption, et puis un droit de regard de la communauté internationale sur le fonctionnement de l'État, sur la répartition de la richesse intérieure, et puis aider ce pays-là. Je crois, c'est pas pour apporter atteinte à la dignité des Irakiens, le pays tel comme il est, sans un soutien assez musclé de la part de la communauté internationale, je crois que le pays à lui tout seul ne peut pas s'en sortir.
Hocham Daoud, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Un jour dans le monde. Je rappelle, anthropologue, chercheur au CNRS, spécialiste de l'Irak, ancien directeur de l'Institut français du Proche-Orient en Irak.
France Inter, Pierre Veil, Un jour dans le monde.
À suivre jusqu'à 19h, quelques rendez-vous. Trump, saison 2, avec à Washington, Grégory Phillips, qui est déjà en ligne avec nous. Bonsoir Grégory, Donald
Bonsoir,
Trump,
Pierre.
Quoi de neuf ces derniers jours, dernières heures?
Écoutez, une semaine évidemment marquée par ce qui s'est passé en Floride mercredi dernier, la fusillade dans ce lycée de Parkland, et on va se demander si une poignée de lycéens de Parkland n'est pas en train de peut-être faire basculer un peu le débat sur les armes aux États-Unis.
À tout à l'heure, Grégory, le reportage dans cette émission aujourd'hui, le Kosovo, les 10 ans de l'indépendance de ce pays des Balkans avec Angélique Kourounis, et puis l'édito Diplo, 18h55, Bertrand Galichet, bonsoir Bertrand.
Bonsoir Pierre.
Avec vous, on va parler de la situation au Daguestan. Une église orthodoxe attaquée, 5 femmes ont trouvé la mort, et bien sûr c'est un dossier qui va compter dans la stratégie du Kremlin.
Oui, le Daguestan, petite république du Caucase où l'islamisme avance ses pions. Alors effectivement, à un mois de la présidentielle en Russie, eh bien nous essaierons de comprendre dans quel contexte, comment évolue ce pays et quelle est la stratégie du Kremlin face à cette situation.
Rendez-vous à 7h-5, si je puis dire, sur France Inter, Bertrand Galichet. Tout de suite, Baxter Dury et ce morceau Prince of Tears, le son grave de sa voix, la voix de Baxter Dury, et puis des choristes plus légers. Voilà les musiques qu'on aime à France Inter.
Don't
Baxter Dury. Il est 18h38 sur Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Et tout de suite, sous les radars de l'actualité internationale avec Florence Paracuelos. Florence, vous nous emmenez au pays du chocolat et des francs par milliard. C'est la Suisse.
Mais oui, la Suisse, probablement le seul pays au monde où les comptes publics font polémique alors même qu'ils sont dans le vert. 4,8 milliards de francs suisses dans les caisses de l'État fin 2017. Et oui, c'est facile, c'est vrai, mais il y a de quoi yodeler un excédent monstre, alors que le Conseil fédéral avait prévu un solde négatif, sauf que ça finirait presque par être agaçant. Pierre, 12 ans que les gouvernements successifs font le même coup en Suisse, prévoir un déficit, mener une politique de rigueur et s'étonner ensuite des miraculeux milliards d'euros dégagés. Cette année, les socialistes accusent le ministre des Finances de ne pas maîtriser la calculette. Les centristes, parti du ministre, réclament des baisses d'impôts et plus de dépenses publiques. Mais voilà ce que leur répond Uli Maurer, le ministre en question.
Non, absolument pas. C'est le franc des citoyennes et citoyens. Et il faut être prudent avec ce franc. Et il faut toujours chercher des possibilités pour être plus efficace.
Voilà, plus efficace. Pas question de desserrer l'étau de la rigueur, de revenir sur les économies imposées au système de santé, à la formation et à la recherche. On a des sous, on les garde, on ne sait jamais où on les utilise pour rembourser la dette, qui est toute petite. D'ailleurs, cette dette, l'une des plus faibles des pays de l'OCDE. De l'art de rester assis sur ces milliards.
Voilà pour la Suisse. Florence Paracuelos, le sort des migrants maintenant. Pas en Europe, pas en Libye, mais en Algérie.
100 000 migrants illégaux survivent en Algérie, selon les associations des hommes, des femmes, des enfants d'origine subsaharienne. Ils occupent des petits boulots mal payés au noir. Ils seraient des centaines à avoir été arrêtés la semaine dernière, transférés dans un centre de rétention de la banlieue d'Alger pour être expulsés, c'est-à-dire mis dans des bus, vers Taman Rasset, à 2000 km en plein Sahara. Le voyage, selon les associations, c'est pour poursuivi en camion vers la frontière nigérienne, puis à pied, 15 km dans le désert jusqu'à la localité d'Assamaka au Niger. Plus de 2000 Africains ont connu le même sort en septembre-octobre, expulsés sans distinction de nationalité. Amnesty International avait parlé de profilage ethnique et de violation des droits de l'homme. La plateforme Migration Algérie, qui regroupe 21 associations, dénonce cette fois encore la méthode du gouvernement algérien. Et les pays concernés commencent à s'énerver. La Guinée-Conakry, par exemple, a rappelé son ambassadeur en Algérie.
Et pour finir, Florence, vous nous emmenez en Thaïlande où s'achève Cobra Gold, l'exercice militaire annuel américano-asiatique.
7000 GI cette année en Thaïlande pour la 37e édition de ces manœuvres conjointes, 10 jours sur une base navale thaïlandaise. Et comme chaque année, l'exercice s'achève par un stage de survie dans la jungle. Qui dit stage de survie, Pierre, dit ingestion peu ragoûtante. Celui de l'armée française à Collioure se valide en avalant une sardine entière crue, selon les journalistes de France Inter qui ont fait ce stage. Celui des Marines thaïlandais se conclut par l'étape obligatoire du sang de cobra.
Ah.
On commence par attraper le cobra, on l'entaille et on verse son sang directement dans la bouche du stagiaire, en l'occurrence le Marines américain, tellement endurci qu'il n'a même pas une moue de dégoût après cette entrée, parce que c'est une entrée. Suivent les tarentules et les scorpions vivants, voilà qui rendrait nos chances de survie dans la jungle assez faibles, Pierre.
Florence Paracuelos, sous les radars de l'actualité. À demain, Florence.
À demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Mecca, le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
L'escale reportage direction le pays le plus pauvre des Balkans, le Kosovo, ancienne province de Serbie, a fêté hier et avant-hier les 10 ans de son indépendance. La guerre avec la Serbie a fait 13 000 morts dans les années 90. Le Kosovo, 1 800 000 habitants, dont 120 000 d'origine serbe. La grande majorité, c'est la communauté albanaise. Situation économique difficile là-bas, marquée par la corruption et le chômage. Reportage d'Angélique Kourounis à Pristina, la capitale du Kosovo.
Les feux d'artifice tirés des quatre coins différents de la ville ont illuminé le ciel de Pristina samedi soir. Le pays fêtait ses 10 ans d'indépendance et Dritan, la quarantaine, est venu en famille faire la fête. Il a du mal à y croire.
In this street, we used to throw
Dans cette rue, nous lancions des pierres sur les Serbes pendant qu'eux nous tiraient dessus, exactement comme en Palestine. Ce qu'on voulait, c'était juste une république à nous au sein de la Yougoslavie. Maintenant, on a un État, vous imaginez ? C'est un miracle. C'est trop beau pour être vrai.
Dritan était pendant la guerre mon traducteur. En juin 1999, nous entrions ensemble parmi les premiers dans la ville de Pristina avec la KFOR, la Force Internationale d'Interposition. Dritan avait fui le pays 3 mois plus tôt avec sa famille. En haut de la colline qui surplombe la ville, après des heures et des heures de route, nous découvrions Pristina. On entendait encore des tirs, ça et là.
J'ai vu que Pristina n'était pas détruite. C'était une sensation formidable. La guerre était finie, nous en haut de la colline, et la ville de Pristina était toujours là, à nos pieds. Ma ville natale, elle était devant moi. C'était une belle journée, l'air était frais. Les rues étaient désertes. Je m'en souviens, et à la sortie de la ville, les Serbes qui s'en allaient. Les occupants qui quittaient les lieux. Eh bien, voir ce tableau, ça valait la peine. C'est pourquoi je suis heureux.
L'un des problèmes du Kosovo est la radicalisation d'une partie de la société. Depuis la fin de la guerre, une multitude de mosquées se sont construites, une dizaine d'hommes sont partis faire le djihad en Syrie et il n'est plus rare de voir des femmes voilées dans la rue, même si elles restent une minorité. La femme de Dritan, Arjana Kozach, militante féministe, est un peu inquiète de ce phénomène.
La radicalisation est toujours un danger, tout particulièrement quand ça vient avec des pressions d'ordre religieux. J'étais encore plus anxieuse il y a 3 ans lorsqu'on voyait de plus en plus de gens qui prenaient des filles à partie dans les rues et les harcelaient si jamais elles étaient habillées de manière un peu osée. Mais à partir du moment où l'État a montré qu'il était là, aussitôt la pression sur les femmes tombait.
L'autre problème du Kosovo est la corruption, visible à l'œil nu avec ses dizaines de stations d'essence et autant d'hôtels luxueux qui servent à blanchir l'argent sale. Une corruption qui gangrène le quotidien, comme nous l'explique blasé et sans illusion Talat Hoxha, vendeur rencontré au marché.
La corruption est partout, dans l'éducation, les hôpitaux, le bâtiment. Les gens payent un professeur pour passer d'une classe à une autre ou avoir un bon résultat d'examen. Voilà les gens qui nous gouvernent. Ces gens ont des éducations bidons, ils sont réseautés et nous dirigent.
Pour Arjana, qui est aussi avocate dans une ONG qui s'attaque à ce fléau, la communauté internationale a sa part de responsabilité.
La communauté internationale a aidé ces gens à rester au pouvoir. Ce sont des escrocs qui sont lourdement impliqués dans des affaires de corruption. Certains sont même de l'opposition. Ça n'a pas d'importance au Kosovo. Quand on touche au pouvoir, on est très vite corrompu. Je pense que ce mantra de stabilité que les étrangers ont soutenu afin d'avoir une stabilité politique dans le pays a beaucoup contribué à maintenir ces gens au pouvoir et dans l'impunité.
Cette corruption touche 30% de la population qui est au chômage, dont plus de 50% de jeunes. Plus d'un tiers de cette population est sous le seuil de pauvreté et la majorité est sans illusion pour l'avenir. Pour autant, ce tableau qui reste sombre a donné naissance à une génération de cinéastes talentueux, comme nous l'explique Mathieu Joffre, réalisateur français, installé à Pristina depuis des années.
Il y a une nouvelle génération qui se développe parce qu'il y a eu aussi la chance pour certains de pouvoir étudier à l'étranger, de faire des écoles de cinéma, donc d'avoir une ouverture, un cinéma plus international. Donc du coup aussi, ça change dans l'approche des différents sujets qui sont abordés et comment les traiter à travers la société. Nombreux de ces réalisateurs sont des réalisatrices qui ont acquis un certain succès avec des premiers films. Et puis surtout, il y a aussi la commission du film local qui se bat pour son indépendance et essayer d'être la plus représentative au niveau des sujets traités et des financements, de l'aide, qui est un vrai support en fait.
Après 2 jours de fête et un premier défilé des forces de sécurité appelées dans le futur à devenir l'armée du pays, ce que la communauté internationale refuse pour l'instant, les Kosovars se réveillent sous la neige aujourd'hui, encore un peu sonnés de ce jubilé d'indépendance auxquels ils ont toujours du mal à y croire.
Angélique Kourounis, reportage à Pristina, capitale du Kosovo. En novembre 1980, Stevie Wonder a publié l'album Hotter Than July, une merveille absolue. Il y avait deux titres phares. Happy Birthday, plaidoyer pour que le jour de la naissance de Martin Luther King soit déclaré férié. Ce sera voté en 1983 par le Congrès américain. Et puis, autre titre cinglant, tube planétaire, hommage à Bob Marley, Master Blaster. Wonder, musicien génial, interprète exceptionnel, homme qui défend de grandes causes, bref, un homme indispensable, toujours avec nous, toujours sur les scènes. Il a 67 ans cette année, Stevie Wonder. Il est 18h51.
France Inter.
I will work so hard.
Pierre Veil.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
On reste aux États-Unis avec Trump saison 2 et Grégory Phillips. Grégory, d'abord aujourd'hui, c'est le President Day, le jour de votre président?
Oui, en fait, le jour des présidents, férié ici aux États-Unis, traditionnellement le troisième lundi de février, pour se rapprocher de la date anniversaire de la naissance de George Washington, né un 22 février 1732. Donc un jour chômé pour honorer tous les présidents américains. Le mien, comme vous dites, est encore en Floride aujourd'hui, dans sa résidence de Mar-a-Lago. Il rentre ce soir à Washington, à la Maison-Blanche, et il a souhaité ce matin sur Twitter à tous les Américains un bon President's Day en invitant, je cite, ses concitoyens à la réflexion.
Alors la Floride, Grégory Phillips, marqué par le drame de mercredi dernier, la mort de 17 lycéens abattus par un ancien élève du lycée Stoneman Douglas de Parkland. Les élèves de Parkland annoncent une grande manifestation à Washington le 24 mars prochain pour réclamer plus de contrôle sur les armes à feu. Et le président Trump a été directement interpellé par ces jeunes ce week-end.
Oui, vous avez raison, c'était lors d'une manifestation organisée samedi après-midi à Fort Lauderdale. Vous avez peut-être déjà entendu ce matin dans les journaux d'Inter la rage et la colère de cette jeune fille de 18 ans. Mais j'ai tenu ce soir à vous la faire réentendre. Elle s'appelle Emma Gonzalez, élève de terminale au lycée Marjorie Stoneman Douglas. Mercredi, elle se trouvait dans l'amphithéâtre du lycée quand le massacre a débuté. Et elle est donc devenue, en quelques heures à peine, la porte-parole des élèves endeuillés avec ce discours que je vous propose de réécouter.
Si le président vient me voir et qu'il me dit les yeux dans les yeux que c'était une terrible tragédie qui n'aurait jamais dû arriver, alors je lui demanderai combien il a reçu de la NRA. $30 million. Vous les politiciens qui êtes assis bien à la Chambre ou au Sénat dans des sièges financés par la NRA et qui nous dites que rien n'aurait pu empêcher ça, on vous répond « mensonge ». Ils disent que des lois plus dures sur les armes de nuit n'éliminent pas les violences par armes à feu. On répond « mensonge ». Ils disent qu'un bon gars armé arrivera toujours à arrêter un mauvais gars, lui aussi armé. On répond « mensonge ». Ils disent que nous, les ados, on ne sait pas de quoi on parle, qu'on est trop jeunes pour comprendre. On répond « mensonge ». Et si vous êtes trop jeunes pour aller voter, alors contactez vos représentants et dites-leur ce que vous en pensez.
Voilà Pierre, discours extrêmement fort, vous l'avez entendu, à tel point qu'on se demande si peut-être ces jeunes parviendront à ouvrir le débat sur les armes aux États-Unis. En tout cas, Emma, David et Cameron et les autres de Parkland ont appelé à une grande manifestation le 24 mars prochain à Washington pour le contrôle des armes. Le président Trump, lui, a fait savoir ce matin qu'il était désormais favorable à une loi pour renforcer les contrôles sur les antécédents judiciaires des acquéreurs d'armes à feu, et il a prévu de rencontrer des lycéens de Floride mercredi après demain. On ne sait pas encore dans quel cadre ni où précisément, si ce sera en Floride ou bien ici à Washington à la Maison Blanche.
Grégory Phillips, donc Donald Trump profite comme tous les Américains d'un long week-end avec ce jour du président, ce President Day, et Donald Trump a beaucoup tweeté, il a aussi regardé la télévision.
Oui, l'agence américaine AP rapporte que les conseillers du président, lui, ont précisément déconseillé d'aller golfer ce week-end, quelques heures seulement après la tragédie de Parkland. Il est donc resté chez lui dans sa résidence de Mar-a-Lago. Il est resté à tweeter. Au total, j'ai compté 23 messages postés depuis vendredi sur Twitter, essentiellement consacrés à l'enquête russe et au FBI. Et puis aussi, ça on en a l'habitude, un week-end consacré et des messages consacrés à ce que le président a regardé à la télévision. Ça, par exemple, c'était hier soir sur CBS, l'émission 60 Minutes.
How many people here voted for him, just to remind everybody, and how many of you would vote for him again?
Voilà, émission spéciale présentée par Oprah Winfrey, une longue conversation avec 14 électeurs américains du Michigan, dont la moitié avait voté Trump en 2016. Et donc l'émission n'a pas du tout plu au président, qui parfois sur les réseaux sociaux se mue en critique télé. Voici donc son commentaire. Je viens de regarder Oprah Winfrey qui manquait d'assurance, ses questions étaient orientées, les faits présentés étaient faux. J'espère qu'Oprah se présentera à la présidentielle de 2020 et comme ça je pourrai la vaincre comme je l'ai fait avec les autres. Trump donc très en forme, Pierre, devant sa télévision.
Trump, saison 2 avec Grégory Phillips. Merci Grégory.
Le 18-20, Pierre Veil sur France Inter.
L'édito Diplo et Bertrand Galichet. Bertrand, c'est une petite république du Caucase russe dont nous allons parler ce soir, le Daghestan, où 5 femmes ont trouvé la mort hier à la sortie d'une église orthodoxe. Des femmes tuées par un assaillant qui a ouvert le feu à la sortie de la messe. Une attaque revendiquée un peu plus tard par le groupe État islamique. À un mois de la présidentielle russe, cette tuerie braque les projecteurs sur une république oubliée de la Fédération de Russie qui prend, Bertrand, une tournure inquiétante.
Oui, le Daghestan, à majorité musulmane, ressemble de plus en plus à un califat où une forme d'islam intégriste se substitue progressivement à un État miné par la corruption et la pauvreté. Un petit pays, moins de 3 millions d'habitants, dans le sud-ouest de la Russie, sur les rives de la mer Caspienne, entre Tchétchénie, Géorgie et Azerbaïdjan. Il devient le nouveau cauchemar du Kremlin qui redoute une dérive islamiste. C'est pourquoi Poutine a nommé en octobre dernier pour diriger cette république un homme de confiance, Vladimir Vassiliev, ancien chef du parti président présidentielle à la Douma, un apparatchik de 68 ans chargé de contrer la poussée djihadiste dans cette région reculée. L'attentat d'hier confirme que ce ne sera pas chose facile.
Et au-delà du risque terroriste, Bertrand Galichet, la société elle-même se radicalise au Daghestan.
Oui, il y a la capitale, Makhatchkala, qui reste assez occidentalisée, et puis certaines villes de province où le salafisme s'est durablement implanté. On y croise beaucoup de femmes vêtues de hijab, la polygamie y est fréquente, le tabac et l'alcool sont prohibés, et dans ces califats en devenir, la charia s'impose souvent comme la loi locale, une tendance que ne parviennent pas à freiner les autorités du Daghestan, malgré la pression du Kremlin qui craint, comme la peste, une nouvelle Tchétchénie. Mais la géographie montagneuse et la division du pays en multiples groupes ethniques rendent très compliqué le contrôle de cette république.
Pourtant, comment en est-on arrivé à cette situation ?
Alors, l'attentat d'hier n'est que le dernier avatar d'une violence alimentée par le salafisme depuis la chute de l'Union soviétique. À l'époque, l'ouverture des frontières permet à beaucoup de jeunes du Daghestan de voyager vers des pays comme l'Égypte ou la Syrie, dont ils reviennent avec des revendications religieuses. Prosélytisme efficace, récupéré par d'anciens notables communistes, reconverti alors dans l'islamisation du Daghestan. Le terreau identitaire est favorable. Après l'effondrement des dogmes soviétiques, le salafisme devient une nouvelle boussole pour une partie de la population du Daghestan.
Et la tendance s'est accentuée au fil des années ?
Alors d'abord avec à la faveur de la deuxième guerre de Tchétchénie entre 1999 et 2009, où des islamistes tchétchènes trouvent refuge dans les montagnes du Daghestan, qui abritent ensuite leur camp d'entraînement. La frontière entre les deux pays est très difficile à surveiller et des combattants du Daghestan viennent prêter main forte aux rebelles tchétchènes contre les Russes. Tout cela favorise la radicalisation des deux côtés. Ces dernières années, ce sont évidemment les guerres en Irak et en Syrie qui ont suscité des vocations. Pas de chiffres détaillés sur le nombre de combattants originaires du Daghestan, mais ils ont fourni sans doute une bonne partie des 4 à 5 000 djihadistes partis de Russie combattre aux côtés de l'État islamique.
Bertrand, le Kremlin peut-il reprendre la main dans cette république à un mois du scrutin présidentiel ?
C'est une question difficile. Vladimir Poutine avait réussi à faire diminuer le nombre d'attentats au Daghestan avant les Jeux Olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi. Une répression violente et parfois aveugle contre les islamistes, mais qui avait obtenu des résultats sur le plan sécuritaire. Cette année, ce sera plus difficile, à moins que finalement, il n'y trouve un argument de campagne pour mobiliser ses électeurs contre le risque terroriste.
Bertrand Galichet sur France Inter.